Tout à fait.
Voilà. Monsieur Giraud, bonjour. Merci de nous accorder quelques minutes pour parler de Cuba. Alors, c'est vrai que il n'y a pas une actualité très très chaude ces jours-ci, d'abord dans le monde d'une part, mais surtout sur Cuba. Et ce qui nous intéressait, c'était de faire un point, parce qu'on est à un an de la réouverture des ambassades, de la signature des accords. On sait que le pape François, le Vatican, a joué un rôle assez important, on va dire, dans ce rapprochement, pour avoir été ensuite remercié publiquement, hein, aussi bien, on s'en souvient, par Barack Obama que par Raúl Castro. Alors, dans quelques jours, reprendront les vols commerciaux entre les États-Unis et Cuba. Donc voilà, on s'approche vers une normalisation progressive des relations entre les deux pays. Et puis il y a eu le 90e anniversaire de Fidel Castro. Bon, véritablement, oui, il y a une page qui s'est tournée, mais est-ce que véritablement ce vent de liberté souffle sur Cuba aujourd'hui ?
Alors oui, bonjour. En fait, c'est vrai qu'on a l'impression que la situation a complètement changé. En fait, elle n'a pas tellement changé. Les deux pays ont repris leurs relations diplomatiques, mais beaucoup de choses sont restées en l'état, en particulier l'embargo économique. Donc l'embargo, alors des vols vont reprendre, un certain nombre de vols. Il va y avoir aussi des bateaux qui vont pouvoir passer entre Miami et La Havane. Il y a aussi du tourisme. Il y a des bateaux de croisière, on parle de bateaux de croisière, de circuits de croisière l'hiver prochain. Donc tout ça c'est vrai, mais beaucoup de choses n'ont pas évolué, hein. Et en particulier la situation, on peut dire, assez critique de l'économie cubaine, hein. Disons, l'économie cubaine ne va pas bien, c'est reconnu par les hautes autorités de Cuba, et le président Raúl Castro a reconnu ça dans des déclarations, dans plusieurs déclarations. C'est dû à l'affaiblissement de l'appui qu'apportait le Venezuela. Le Venezuela a beaucoup de problèmes économiques en ce moment, et effectivement, il a beaucoup appuyé le régime cubain et l'économie cubaine pendant des années, en l'approvisionnant en particulier en produits en hydrocarbures, en essence, et c'est maintenant des quantités qui ont été réduites, donc ça entraîne des difficultés. L'environnement international n'est pas favorable sur le plan économique non plus. Les prix des produits du nickel qui est vendu par Cuba a baissé. Donc une situation qui est assez délicate sur le plan économique.
Et sur le plan politique, où en est-on, notamment également sur la question des libertés individuelles ?
Alors sur le plan politique, il y a eu peu d'évolution aussi, parce que bon, d'une part, évidemment, Raúl Castro, il a son âge, hein, c'est-à-dire que quand même un âge assez vénérable, on peut dire, et il a lui-même fixé une date pour la remise du pouvoir, pour la transition politique, donc en 2018, donc ça nous laisse 2 ans à peu près, ou 18 mois, pour préparer, ça lui laisse ce temps-là pour préparer sa succession. Pour l'instant, on voit pas de solution très claire. Il y a eu une réunion du Parti communiste, un congrès du Parti communiste au printemps, et rien n'en est sorti. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas vu de successeur désigné. Au comité central, c'est encore les vieux personnages, hein, les personnages historiques de la révolution qui sont encore aux commandes. Fidel est toujours là, mais bon, il est en retraite, évidemment. Mais Raoul est très actif. Bon, ils ont nommé des ministres, il y a eu quelques changements au niveau des ministres, mais il n'y a pas de stratégie politique de transition en réalité.
Donc Cuba semble en fait confirmer la voie du parti unique malgré ce rapprochement avec les
États-Unis. Oui, absolument, ça a été confirmé, il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas de démocratisation en cours, hein. Ça a été bien signalé par... Donc tout ce qui est ouverture éventuellement libérale sur le plan économique, c'est-à-dire accueil d'investissements étrangers, ça c'est au contraire, c'est très bienvenu, mais pas d'ouverture politique, hein. Concernant les libertés, c'est quand même un pays où les libertés sont extrêmement contrôlées, contraintes. Sur l'Internet, par exemple, sur la presse, il n'y a pas de presse indépendante. L'Internet est quand même accessible par une très faible minorité des Cubains pour des raisons déjà pratiques, hein, parce que ça coûte très cher, parce qu'il y a un contrôle aussi. Alors, il y a quand même quelques organes, disons, marginaux qui peuvent s'exprimer, surtout à La Havane, dans le domaine des arts, dans le domaine de la jeunesse. Il y a quelques blogs ou quelques sites Internet qui apparaissent ici et là et qui peuvent manifester une certaine contestation. Il ne s'agit pas d'opposition politique. L'opposition politique est absolument impossible à Cuba. Et de ce côté-là, il y a eu quand même aussi des manifestations de répression. Parce que, certes, à un moment donné, ils ont libéré les prisonniers politiques, mais parfois, ils les remettent en prison quelques semaines plus tard. Donc, il y a un jeu hein, par rapport à l'opinion internationale en sortant les gens des prisons et puis en les remettant un petit peu plus tard s'ils ne se tiennent pas bien. Donc, de ce côté-là, il y a des limites très, très nettes à l'expression politique d'une opposition.
Alors, il y a un autre aspect qui pourrait paraître surprenant dans ce contexte, disons, de normalisation de relations sur la scène internationale, c'est une certaine forme de reprise de flux migratoires en direction des États-Unis. Alors, je dirais qu'il y a aujourd'hui des conditions particulières accordées aux exilés cubains par les Américains, c'est-à-dire l'obtention pratiquement automatique d'un visa. Mais voilà, pourquoi reprendrait-on ce flux migratoire aujourd'hui alors que finalement tout semble sur la voie des améliorations
avec les Cubains? Oui, c'est vrai, c'est un paradoxe. Mais justement, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas de vraiment de futur, que les gens ne voient pas vraiment de changement et d'amélioration de leur situation personnelle sur le plan social, sur le plan économique, que finalement ça les amène à tenter des choses qui sont parfois assez risquées, se lancer sur des bateaux, prendre des billets d'avion pour Bogota, pour Quito en Équateur, etc., avec l'espoir d'ensuite de faire une connexion sur un vol en direction des États-Unis en se glissant à travers les filets de la migration américaine. C'est quand même assez risqué et beaucoup de gens, en fait, beaucoup de Cubains, il s'agit surtout de jeunes hommes la plupart du temps. On remarque il y a des familles aussi, quelques familles, mais c'est quand même plutôt des jeunes qui émigrent et c'est un flot constant en réalité. Depuis l'année dernière, il y a des centaines et des milliers de Cubains qui ont quitté Cuba de cette façon et beaucoup sont en fait coincés, si on peut dire, entre guillemets, dans des pays comme le Costa Rica, parfois le Nicaragua, au Mexique également. Alors leur situation est très très difficile parce qu'en fait c'est des gens qui ont des ressources modestes la plupart du temps et ils attendent un sauf-conduit ou un visa pour aller aux États-Unis, mais les États-Unis ne sont pas prêts à accueillir non plus en masse les Cubains, d'autant qu'ils ont des règles assez spécifiques, c'est-à-dire qu'en réalité, si les Cubains atteignent le territoire américain, le sol américain, là, à partir de ce moment-là, ils ont le droit d'asile. Ils obtiennent automatiquement le droit d'asile. Donc, il y a une règle qui avait été fixée dans les années 60, et c'est même une loi américaine, mais s'ils sont à l'extérieur des États-Unis, eh ben, ils doivent à ce moment-là passer par tout le système des visas, demander des visas dans les ambassades, dans les consulats américains, et ça, c'est au compte-gouttes, évidemment, que les Américains les donnent. Mais il y a eu des situations humanitaires assez sérieuses, assez graves, et je crois que dans certains cas, ils ont obtenu, enfin ces réfugiés, on peut dire que c'est des réfugiés politiques, ont obtenu des sauf-conduits pour finalement rejoindre les États-Unis, rejoindre leur famille aux États-Unis.
Un tout dernier point, Monsieur Christian Giraud, le secteur touristique, parce que effectivement, bon, dans une situation économique assez morose, avec l'aide du Venezuela qui vient à manquer, parce que le Venezuela, enfin c'est pour Caracas, c'est un autre dossier vu la crise que ce pays traverse. Mais oui. La reprise des vols réguliers, bon, Cuba était de toute façon une destination touristique prisée de nombreux touristes du monde entier. Mais oui. Cette fois, je crois qu'on va véritablement assister à une explosion du tourisme. Alors, oui. Il y a le bien et le mal dans tout ça.
On peut le penser.
Voilà. Si on regarde le verre à moitié plein, bon, ça va peut-être compenser le manque à gagner.
Oui, point fort en fait de l'économie à l'heure actuelle, on peut dire que c'est le seul point fort, parce que comme disait tout à l'heure, la production est assez faible, que ce soit le sucre, les prix ne sont pas bons, le sucre, le zinc, le nickel, pardon. C'est vraiment le point fort de l'économie cubaine. Et de ce côté-là, on peut penser qu'il y aura un accroissement assez important dans les prochaines années. D'autre part, beaucoup de gens veulent voir Cuba. une sorte de voyeurisme, on peut dire, d'une certaine manière, en fait, avant que le système ne change ou qu'il y ait des modifications importantes, voire un peu, on peut dire, des choses un peu archaïques, du communisme archaïque, avec ces symboles que sont les vieilles voitures américaines des années 50 qui ont été rafistolées et qui constituent un attrait pour certains touristes, enfin des choses parfois exotiques, on va dire. Et puis aussi, c'est quand même une destination, comme vous le disiez, tout à fait prisée par ses plages. Et de ce côté-là, Cuba a beaucoup, beaucoup de ressources au point de vue touristique, parce que le territoire est quand même assez vaste, et il y a beaucoup de plages, de zones naturelles, et de souvenirs historiques, de patrimoine historique, très intéressant à Cuba. Le niveau actuel, c'est de l'ordre de 3 à 4 millions de touristes par an. C'est encore relativement moyen, mais par exemple, la République dominicaine est un peu au-dessus. Mais effectivement, on peut penser que dans les prochaines années, comme vous le disiez, on assistera à une explosion du tourisme à Cuba, avec peut-être des aspects positifs et des aspects négatifs, comme vous le dites.
Alors les aspects négatifs, effectivement, ça risque d'être la transformation de ces espaces aujourd'hui naturels préservés.
Ça peut être ça. Ça peut être aussi sur le plan des mœurs, on va dire. Bon, déjà, il y avait déjà évidemment une tradition un peu de, comment dire, de prostitution, par exemple, de trafic. À La Havane en particulier. Et donc, on peut penser que de ce côté-là, ça pourrait confirmer un peu ces aspects de prostitution qui sont déjà assez implantés à La Havane en particulier.
La description que vous me faites un peu de la curiosité des touristes qui veulent absolument voir Cuba aujourd'hui me fait penser à la même curiosité que les Européens avaient en 1989 et 90 au moment de la chute du mur de Berlin.
Oui. Il y a cet aspect, hein. Voir un pays nouveau de la Caraïbe, parce qu'on connaît maintenant très bien la République dominicaine, Porto Rico est très bien connu aussi, allons voir à côté à Cuba. Donc, et en plus, les prix sont intéressants en général. Bon, le pays est tout à fait compétitif sur le plan du marché touristique de la Caraïbe. La Jamaïque est parfois plus chère, par exemple, ou la Barbade est plus chère que... Donc pour les Britanniques, par exemple, qui cherchent une destination, ça peut les intéresser. D'autre part, il y a quand même un tourisme très très important des Canadiens en particulier, hein. Depuis de longues années, en particulier en hiver, évidemment, lorsqu'il fait très très mauvais temps au Canada et qu'il fait très froid au Canada, ils sont très heureux d'atterrir sur les plages cubaines à cette époque de l'année.